Session théologique par le Père Philippe à Saint-Jodard le 10 août 1988.
On verra ça tout à l'heure. Le matin, les troupes sont fraîches, alors faut avancer et entrer à fond dans ce point de vue théologique. Rappelez-vous, pour qu'on entre bien dedans, que la foi, que la connaissance de foi est une connaissance qui nous permet d'adhérer, il y a une adhésion de foi, à la parole de Dieu, donc à l'enseignement de Dieu, à une parole vivante qui est dans son contenu propre quelque chose qui dépasse le temps. À la différence de la parole humaine. La parole humaine peut avoir, hein, dans sa signification quelque chose qui dépasse le temps. Ce qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Vous comprenez, la signification d'une parole d'un philosophe comme Aristote n'est pas la même que la signification d'un poète du même temps. Quand un philosophe découvre un principe, la signification de ce principe est au-delà du temps. Bien que le conditionnement de ce philosophe dépende de cette époque. C'est une distinction qu'on ne fait plus jamais aujourd'hui, qui pourtant est élémentaire. On ne s'adresse pas de la même manière quand on parle à un ami. Je t'aime éternellement. L'amour a quelque chose d'éternel, mais en même temps très conditionné. Et si l'ami répond, ah pas du tout, tu m'aimes maintenant, mais demain je suppose que tu m'aimeras. L'autre dirait, mais pas, alors tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Et la discussion pourrait avoir lieu comme ça. Oui, une parole descriptive reste liée au temps. Un langage qui exprime une intelligence qui dépasse l'aspect descriptif pour saisir les causes et les principes, ça va plus loin. Et ça saisit quelque chose d'éternel. La parole de Dieu, elle a été donnée dans un certain conditionnement. Les 11 premiers chapitres de la Genèse représentent un conditionnement qui n'est pas du tout le nôtre. Et cependant, malgré ce conditionnement, cette parole de Dieu reste vraie pour nous. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne sait pas ce que c'est que la parole de Dieu. C'est vrai, quand je lis la Genèse, en croyant, pas en philosophe, hein, je peux la lire en philosophe, mais je peux la lire en croyant. Quand je la lis en croyant, je sais que c'est pour moi, actuellement, une lumière divine qui m'est donnée. Et donc, cette parole vivante est actuelle dans sa signification profonde. C'est ça le propre du mystère de la foi. La foi nous fait adhérer à la vérité première, c'est-à-dire Dieu, qui se révèle à nous. C'est ça qui détermine, qui spécifie la foi. Et cette lumière m'est donnée par une parole divine. Parole divine qui m'est transmise par des traditions religieuses, les 11 premiers chapitres de la Genèse. Par des écrits plus historiques, à partir du chapitre 12, Abraham, qui m'est donné à travers tel ou tel prophète, Ézéchiel, Isaïe, et ainsi de suite, jusque Jean. Jean qui est l'ami. C'est très curieux, hein ? Qu'aucun autre instrument dont Dieu s'est servi ne s'est dit l'ami. Il n'y a que Jean. Alors, depuis les traditions jusqu'à Jean, il y a toute la gamme. Vous voyez, l'Esprit Saint se sert de multiples choses, c'est pour ça que l'Esprit Saint a des langages si différents. C'est vrai, c'est un langage tout à fait différent, le cantique des cantiques et les 11 premiers chapitres de la Genèse. Pas tout à fait la même chose. Et pourtant, c'est toujours la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a comme auteur principal l'Esprit Saint. Nous le disons dans le credo. Mais souvent, on ne s'en aperçoit pas. C'est l'Esprit Saint qui est l'auteur principal. C'est donc qu'il faut tout le temps remonter à l'Esprit Saint. Si vous restez uniquement à l'instrument, au manche à balai, ça ne va pas. Il faut remonter jusqu'au bout. Et la signification profonde de l'Écriture, en définitive, c'est l'Esprit Saint qui me la communique. Il me communique à travers un instrument, à travers une communauté, mais c'est quand même l'Esprit Saint. Oui, c'est des choses élémentaires que je vous rappelle. Mais c'est nécessaire aujourd'hui de se rappeler ces choses qu'on ne dit plus assez à cause du positivisme qui s'introduit dans la théologie. Et dans le positivisme, on ne regarde plus que les faits. Et on ne remonte pas à la cause. C'est la différence. Pour un positiviste, le fait suffit. Pour un être intelligent, le fait ne suffit pas. Il faut le comprendre. Et donc, il faut remonter à la source. Le positiviste descend le fleuve. Le philosophe remonte à la source. En nous, il y a les deux. Hein. Je suis persuadé. En chacun d'entre nous, oui. Il y a toujours un petit positiviste, on est de son temps. Et notre temps est marqué par le positivisme. Et puis on est quand même un peu intelligent, au-delà de notre temps. Et alors on remonte à la source. Et c'est la même chose pour le croyant. Il y a le croyant contemplatif et le croyant positiviste. Le croyant contemplatif, c'est celui qui sait qu'il est enseigné par l'Esprit Saint. Et qu'il est à cette haute école, qui est l'école de l'Esprit-Saint. Quand je lis l'Écriture, je me mets à l'école de l'Esprit-Saint. Et puis, il y a le positiviste en nous, qui, au fond, se contente des faits. Je regarde les faits, puis c'est tout. Vous voyez le double regard que vous pouvez avoir pour l'Église. Vous pouvez avoir un regard journalistique sur l'Église. Tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Puis vous pouvez avoir un regard de croyant contemplatif qui sait que l'Église est mue par l'Esprit Saint. L'Église est conduite par l'Esprit Saint en se servant des hommes, à travers les hommes. Eh bien, quand il s'agit de la création, il y a un texte majeur qui est le début de la Genèse. Et je dis bien, c'est un texte majeur. Il y en a d'autres, je vous les donnerai tout à l'heure, mais ce texte est majeur, il faut tout le temps y revenir. Et la lecture du réfectoire qui était préparée pour vous montre comment le Saint-Père, quand il veut parler de la création, revient tout de suite au 11 premier chapitre de la Genèse. J'aime beaucoup ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une petite tentation de ne plus vouloir regarder les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et encore commence avec Abraham. On oublie qu'il y a quelque chose de fondamental qui nous est donné avant et qui remonte à l'origine. L'origine de tout. Alors, si vous voulez, nous allons regarder rapidement, mais quand même, pour essayer de comprendre ce qu'on doit extraire de ces 11 premiers chapitres de la Genèse en tant que croyant et en tant que théologien qui se met à l'école de l'Esprit-Saint. En tant que croyant, c'est simple, on croit que Dieu est le Créateur. Le comment, je l'ignore complètement. Dieu est Créateur de l'univers. L'univers a été créé dans le temps. Voilà ce que je crois. Et dans cet univers a été fait pour que la vie soit communiquée par Dieu. Et que Dieu puisse réaliser son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. Voilà, au point de vue foi. L'âme est créée directement par Dieu. Et au point de vue de la foi, je sais que celui qui était chef de file, Adam et Ève, ont péché. Bon, on verra la nature de ce péché après. C'est ça que je dois croire. Pas plus, hein. Comment l'univers a été fait, je n'en sais rien. Au point de vue de la foi. Comment l'homme est apparu sur notre petite planète, je n'en sais rien. Le péché, comment ça s'est réalisé, je n'en sais rien. La petite scène de ménage qui a eu lieu, je ne sais pas exactement. Vous voyez, la foi comme telle ne me dit pas le comment. Elle me dit des faits qui ont existé. La création, elle s'est faite dans le temps, mais la création de mon âme spirituelle est toujours actuelle. Parlons pas de création continue. Ça n'a pas de sens pour le croyant et pour le théologien. Parce que la création du côté de Dieu, elle est éternelle, donc elle est actuelle. Et de mon côté, je suis dans le temps. La création se comprend du côté de Dieu, pas de mon côté. Je ne suis pas le créateur. Hein. L'artiste peut parler de certaines créations, mais il sait très bien que sa création est tout autre que celle de Dieu, s'il est croyant. Parce que l'artiste se sert toujours de quelque chose antérieur. Même si tout jaillit de son inspiration. Il dépend d'un milieu. Il dépend d'une matière sur laquelle il pourra opérer. Il dépend d'instruments. Un musicien dépend de son instrument. C'est bien évident. Et si son instrument est fêlé, il pleurera. Parce qu'il ne pourra rien faire. C'est évident. Il est interdépendant. Dieu n'a pas d'instrument quand il crée. Il dit et tout a été fait. On le disait encore dans les psaumes d'aujourd'hui. Il dit et tout a été fait. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est merveilleux, hein, ça. On voudrait bien de temps en temps que notre parole soit comme ça efficace, hein, et créatrice. Je voudrais tellement que vous soyez tous super intelligents. Je le désire. Ça y est, c'est fait. Je ne peux pas. Je suis obligé de tenir compte de la matière devant laquelle je me trouve. Donc de votre niveau d'intelligence. Je dépends de la matière. Et pour tout, c'est comme ça. Le menuisier dépend de la matière, du bois. N'oubliez pas qu'en grec, le mot matière, c'est bois. C'est assez joli, du reste. Ça montre bien que la première matière que l'homme vraiment a connue, c'est le bois. C'est le menuisier. Très vite, puisque la foi est reçue dans mon intelligence. Très vite, le croyant qui a développé son intelligence va réfléchir sur sa foi. Et cette réflexion sur sa foi sera la théologie. La théologie, c'est l'œuvre commune de la foi et de l'intelligence humaine. C'est pour ça que là encore, il y a des niveaux très variés de la théologie. La théologie implique une très très grande variété. Regardez le dictionnaire de théologie chrétienne, l'article théologie, vous verrez qu'à travers l'histoire de l'Église, la théologie a pris des significations extrêmement différentes. Plus je suis croyant, plus je suis intelligent, plus la théologie sera pénétrante. Si je suis un tout petit croyant, si je suis très peu intelligent, quand même un tout petit peu, la théologie que je ferai sera assez rase-motte. Ça n'ira pas très loin. Si au contraire, je suis un saint contemplatif, ma foi est très pénétrante. Je me suis exercé à éduquer mon intelligence et une intelligence réaliste qui va aller le plus loin possible dans l'ordre de l'intelligence, ma théologie sera très puissante, très pénétrante. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas mettre ça vis-à-vis de tous les traités de théologie qui paraissent. Le degré de sa foi, nous avons affaire à un théologien qui a une foi très contemplative. Nous avons affaire à un théologien qui a une foi très positiviste. Nous avons affaire à un théologien qui est remarquablement intelligent. Il ne cherche que la vérité. Le reste, ça lui est bien égal. Nous avons affaire à un théologien qui ne cherche qu'une seule chose, c'est de soigner son image de théologien, sa gloire. Donc, ça ne va pas très loin. C'est quand même très important, puisque c'est le théologien qui fait la théologie. Et la théologie est une œuvre. Vous voyez, quand vous avez une œuvre artistique, vous jugez de l'œuvre artistique en fonction de l'artiste. C'est comme ça que vous allez écouter tel ou tel concert. Oh, ceux qui vont jouer là sont des premiers violistes du monde. Il faut à tout prix les entendre. Puis vous êtes très déçus. Oui, ce jour-là, il n'a pas bien joué. Ça n'allait pas. Normalement, il joue beaucoup mieux. Oui, on juge tout le temps d'après l'artiste. Tout le temps. Une œuvre implique l'artiste, bien que l'œuvre a sa valeur en elle-même. La Bible, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui s'est servi de tel ou tel instrument. La Bible est donnée pour le croyant. C'est le livre du croyant. Le croyant doit se nourrir de la Bible, en sachant très bien qu'il y a des quantités de valeurs différentes, mais il se nourrit de cela. Et en tant qu'il est intelligent, il lit la Bible en faisant sa petite théologie. Chacun d'entre nous, nous sommes des théologiens en herbe, mais nous sommes des théologiens ou des théologiennes. Nous avons notre petite théologie. À partir de là, maintenant, je peux regarder ce que nous allons faire, nous, théologie des 11 premiers chapitres de la Genèse. C'est la théologie de la création, c'est la théologie de l'apparition de la vie, c'est la théologie de l'homme, c'est la théologie du péché. Donc tous les premiers, c'est les 11 premiers chapitres de la Genèse qui nous donnent ça. Dans l'Écriture, on reviendra constamment là-dessus. Mais ce ne sera pas le livre majeur qui nous montre ça. Vous voyez la différence ? Pour que vous compreniez mieux, des 11 premiers chapitres de la Genèse et du prologue de Saint Jean. Lisez les deux à la suite. et les mettait en parallèle. Genèse 1, 11. 1, oui. 11 inclus. Inclus. Donc, vous pouvez mettre 12 si vous aimez mieux. Exclus. Et puis, prologue de Saint Jean. Tous les deux ont l'Esprit Saint comme auteur principal. L'instrument ici, très différent de celui-ci. Ici, l'instrument est un ami. Un ami, on confie des secrets et on sait que l'ami pourra les donner. L'instrument ici, c'est quoi ? Tradition religieuse. Très, très perdu dans la nuit. On ne sait pas exactement. Tradition religieuse. Purifié par l'Esprit Saint. Quand vous faites un parallélisme entre les 11 premiers chapitres de la Genèse et les autres traditions religieuses, vous voyez toutes les différences. C'est intéressant à faire, du reste. Vous voyez toute la purification d'auteur principal. La Genèse nous montre le commencement. Hein, c'est bien ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu crée le ciel, la terre. Voilà ce qui nous intéresse. Donc on part du point de départ du temps, l'origine. L'origine de notre monde physique, la terre. Jean, dans son prologue, au commencement, alors, c'est tout à fait un autre commencement. C'est in principio, en latin. En grec, en arché, dans le principe. Ce commencement, c'est le commencement de l'éternité. L'origine de ce qui est éternel. Or, ce qui est éternel, par définition, n'a pas d'origine. Il est. C'est le prologue de Jean. Oui, c'est merveilleux. Hein, le croyant, il a un regard sur l'éternité, un regard sur le temps. Et vous avez un regard double, constant. Un regard sur l'éternité, prologue de Jean. Au commencement, le verbe était. Le verbe. Et le verbe était Dieu, et le verbe était en Dieu. Donc c'est Dieu, c'est le mystère de Dieu. Et c'est le mystère de la fécondité de Dieu. C'est le mystère du secret du Père. C'est le secret du Père. Tandis que là, Jean nous donne, tandis que là, la Genèse nous montre. C'est bien un secret aussi, puisque ça aboutit à l'homme et la femme. Et on les nomme Adam et Ève. C'est la découverte de notre grand-père. C'est la découverte de notre grand-père. Tandis que là, c'est la découverte de celui qui est au-dessus de tout. L'éternel et le regard dans le temps. Je crois que c'est très important, vous voyez, de comprendre que tout regard de foi a toujours cette double dimension. Toujours. La foi nous fait toucher quelque chose d'éternel et la foi nous fait toucher toujours quelque chose de temporel. Le croyant, si haut qu'il s'élève, garde les pieds sur la terre. Et en même temps, il a la tête dans l'éternité. Alors, c'est l'origine que je regarde maintenant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était un chaos. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. première parole créatrice de Dieu par rapport à la lumière. Ça, c'est très étonnant. Notre univers, dans son commencement, c'est la lumière. L'unité de notre univers, c'est la lumière. C'est la lumière. Voilà ce qui nous est révélé. C'est beau, du reste. Parce que la lumière, c'est beau. C'est la lumière qui est donnée en premier lieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Ah. Première action. Deuxième action. Séparation. Tout de suite. Ah, c'est tout de suite. La lumière fait l'unité. Mais immédiatement dans l'unité, on voit une division, une séparation. Et la première séparation, c'est la lumière et les ténèbres. C'est la première chose qui nous est révélée. La première division. La lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il appela la nuit. Il eut un soir, il eut un matin, le premier jour. Vous voyez ce langage d'une simplicité remarquable pour nous dire des choses abyssales. Un langage que tout le monde peut comprendre. Tout le monde. Et on nous montre le jour comme symbole de la lumière et la nuit, symbole des ténèbres. Alors ce qui est très curieux, c'est que vous retrouvez dans le prologue de Saint Jean la lumière et les ténèbres. Donc c'est une distinction capitale à travers toute l'écriture. Lumière, ténèbres. Dieu est lumière. Alors évidemment, vous voyez tout de suite hein, que le même mot peut couvrir des choses totalement différentes. Vous voyez que le mot « lumière » regarde Dieu, le Verbe et la lumière véritable. La lumière et le jour. Le mot « ténèbres » peut redécouvrir des choses tout à fait différentes. Les ténèbres la nuit. C'est pas mauvais les ténèbres la nuit. Ça nous permet de nous reposer quand même. Si le soleil était tout le temps éclatant, ce serait beaucoup plus difficile de dormir. Les ténèbres sont faites pour qu'on puisse dormir, c'est bon. Mais les ténèbres représentent aussi quelque chose de mauvais, le péché. C'est très curieux. Tout de suite, hein, vous voyez que le langage de l'écriture est un langage symbolique qui signifie des choses diverses. Et dans ce symbolisme, le théologien découvrira des analogies. Qu'est-ce que c'est que l'analogie ? C'est justement le fait qu'il y a des significations diverses. Il n'y a pas qu'une seule signification. Donc, langage symbolique impliquant des significations diverses et en même temps toujours une certaine unité. C'est ça qu'on appelle l'analogie. L'analogie, c'est dans les significations diverses redécouvrir une certaine unité. Il pourrait y avoir un symbolisme qui sera un symbolisme beaucoup plus grossier où l'analogie sera beaucoup moins fine. Et alors on dira analogie métaphorique. Tout de suite, vous voyez ça dans le langage de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez ensuite hein? Je suis et je fais la théologie de ces premiers, ces rudiments, si vous voulez. Dieu dit qu'il est un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il en fut ainsi. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament avec les eaux qui sont au-dessous du firmament. Dieu appela le firmament ciel. Il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Alors apparaît ensuite le point de vue de la vie, que la terre produise de la verdure. Et là, on est au troisième jour. Le troisième jour, c'est la communication de la vie. Et de l'air portant semence. Et des arbres fruitiers donnant selon leur espèce. Et en fut ainsi. Et la terre fit sortir de la verdure. Et de l'air portant semence selon son espèce. Dieu dit qu'il y eut des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires, de grands luminaires, le soleil et la lune. Quatrième jour. Après, vous avez les êtres vivants. Cinquième jour. Vous avez donc tout un ordre ponctué par le point de vue de la semaine. Le premier ordre fondamental qui nous est donné, c'est un ordre du temps. Et puis, il y a un ordre de lieu. Il y a deux ordres. Et l'ordre du lieu est donné avant l'ordre du temps. C'est la lumière et les ténèbres. C'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Si j'essaie de comprendre, en me mettant à l'école de tout ça, je vois qu'il y a deux ordres. L'ordre de lieu, l'ordre du temps. Et que tout est créé selon un certain ordre. Et je me sers symboliquement de cet ordre du temps et de cet ordre du lieu. Pour arriver, parce que c'est ça qui m'intéresse, après le cinquième jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toutes les bêtes sauvages. Quand on revient d'Afrique, on s'aperçoit que notre dominium sur les moustiques a fameusement diminué. Parce que durant la nuit, quand on est réveillé, dit, petite bête, tais-toi! Elle ne se tait pas. Elle continue. Donc, c'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les requins, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages, sur tous les reptiles, même les serpents. Tais-toi. Continue. Bougez. Très cru, hein. Ce roi de l'univers, il est terriblement démocratique aujourd'hui. Son imperium de roi n'est pas très efficace. C'est tout de suite la réflexion que je fais, hein. Je lis ce texte, c'est très beau ce texte, mais un peu mythique. Hein. Il est complètement dépassé, c'est pas ça du tout. Mais je vois que quand même, il y a ça. Oui, comment se fait-il? Ah, entre deux, il y a eu un petit drame. Il y a eu le péché. Et le péché a introduit un désordre. Un désordre qui va jusqu'au désordre dans le cosmos, sur les animaux, et surtout par rapport à l'homme, qui a diminué fameusement son imperium royal. Donc, je vois que tout ça, c'est merveilleux, hein. C'est merveilleux tout ça, mais C'est très symbolique. C'est très symbolique. C'est un langage très poétique. Du reste, ne l'oublions pas, l'Église n'a pas hésité de dire que les 11 premiers chapitres de la Genèse ne sont pas un langage historique, scientifique. Je ferais une très grave erreur de le considérer comme un langage historique, scientifique. C'est un langage symbolique, mais d'un symbolisme divin. C'est-à-dire d'un symbolisme qui exprime quelque chose de réel, mais selon un mode poétique et symbolique. C'est très important de comprendre ça. Et ce symbolisme est encore beaucoup plus fort quand il s'agit du second récit de la création. Alors, on met des étiquettes. Récit éloïste, récit yahviste. On est bien avancé. C'est très curieux que l'Esprit Saint a voulu qu'il y ait deux récits sur la création. Moi, c'est ce qui m'intrigue le plus. L'Esprit Saint a voulu, l'Esprit Saint n'aime pas les répétitions, mais l'Esprit Saint a voulu tout de suite, sur le début de l'Écriture, sur la Genèse, sur la création, qu'il y ait deux récits. Et à travers toutes les 11 premiers chapitres de la Genèse, j'ai deux types de récits. Un récit beaucoup plus archaïque et un récit beaucoup plus évolué. C'est intéressant de voir ça. Mais tous les deux sont symboliques. Mais d'un symbolisme plus grossier et d'un symbolisme plus évolué. Le premier récit, éloïste, est beaucoup plus évolué. Parce qu'il introduit un ordre. C'est déjà très évolué d'introduire un ordre, selon le temps et selon le lieu. Le second récit est beaucoup moins évolué, et donc beaucoup plus chaotique. Et la valeur du symbolisme prend une force énorme. Relisez attentivement, vous avez le temps, ça vaut la peine. Ces deux récits, que l'Église ne cesse de nous répéter hein, dans sa liturgie, si on est attentif. Donc, l'Église considère que ce n'est pas du tout périmé. C'est toujours actuel. Et ces deux récits ont quelque chose à nous apprendre sur le mystère du commencement, sur le mystère de la création. Alors, qu'est-ce que ces deux récits ont nous apprendre? Là, le théologien intervient. Je vois que ce sont deux récits très intéressants, mais deux récits qui ont une valeur très différente. Et ça, ça saute aux yeux. Ça m'est égal, hein, la dénomination. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Alors, qu'est-ce que le premier récit m'enseigne ? M'enseigne que tout est créé, je vais ici préciser, hein. Là j'interprète, hein, je suis en théologie, et j'essaie de comprendre, dans le sens où l'Église me le dit, la valeur de ces deux récits. Donc premier récit de la création, qu'est-ce qu'il a de caractéristique? Il me met que Dieu crée par sa parole. C'est déjà très évolué. Dieu crée par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est donc le fruit de la parole de Dieu. Quand vous regardez la lumière du soleil, en croyant, non pas en physicien, mais tout simplement, celui qui reçoit la parole de Dieu. La lumière est le fruit de la parole de Dieu. La lumière est donc rattachée directement à Dieu. Ah, curieux. La parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a la parole. Deuxièmement, il y a l'ordre. des lieux et du temps. Deux ordres. Et troisièmement, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et ils sont créés en même temps. Voilà ce que m'apporte directement, immédiatement, ce premier récit. Et il m'est montré parce qu'il y a un ordre du temps, il y a donc un premier dans le temps et un premier dans le lieu. Le premier dans le lieu, c'est le ciel, le firmament, les eaux d'en haut. Et le second, c'est la terre. Avec le problème de la parole et de la lumière, il y a tout de suite une division qui apparaît, séparation. Tout de suite. Du reste, pour qu'il y ait un ordre, il faut une diversité, une unité. Mais la division est bien montrée. Voilà le premier récit. Vous regarderez si vous êtes bien d'accord. Et vous-même, il faut le découvrir. Hein. Il faut faire cette petite recherche théologique. Petit travail théologique à faire. Immédiatement après la conférence. Vous lisez le texte des 11 premiers chapitres de la Genèse. Si vous avez déjà beaucoup lu, tant mieux. Si vous ne les avez jamais lus, c'est l'occasion unique de les lire. Et vous avez avantage de le faire, parce que c'est très intelligent. Et c'est très beau. On doit regarder l'univers comme ça, en tant que croyant. Donc, langage symbolique, hein. Une parole divine symbolique. Il faut dépasser le langage scientifique. Il faut dépasser le langage utilitaire du marché. Dieu ne dit jamais combien ça vaut. Ça vaut tant, la lumière. Non, pas du tout. C'est gratuit. C'est donné gratuitement. Il n'y a pas de compteur pour voir vous utiliser la lumière. Par jour, combien de temps? Non, c'est gratuite. Parole gratuite. Gratuité absolue. Parole symbolique. C'est ça qui est montré. Parole efficace. Une efficacité prodigieuse. Dieu dit que la lumière soit la lumière vue. Et ceci, directement donc, en liaison avec la sagesse de Dieu. Le premier récit de la création me met en présence d'une création ordonnée selon l'ordre des six jours. Et au terme, vous voyez bien, quelqu'un qui est partisan de l'évolution dira, voyez, ça évolue. Les deux premiers jours, c'est le monde physique. Le troisième jour, c'est la vie qui apparaît. Et le sixième jour, c'est l'homme. Être plus parfait. C'est merveilleux. Et sans doute, hein, vous avez deux premiers jours, troisième, il y a des dates importantes, sixième, 2, 3, 6. Les deux premiers jours sont liés au monde de la lumière et des ténèbres, au monde du lieu, ciel et la terre. Puis après, les vivants. Voilà tout ce que Dieu fait. Et voyez qu'il y a un passage très curieux entre le monde physique et le monde des vivants. Ça sort de l'eau, ça sort de la terre. Continuité très étonnante. Cependant, on marque, hein, troisième jour. Donc, il y a quand même une petite distinction. La distinction du troisième jour. Le troisième jour est quand même important. Nous sommes au troisième jour de la saison. La vie. Et le sixième jour est particulièrement important puisqu'il y a une réflexion sur la sagesse. Dieu s'est mis à réfléchir. Avant de créer l'homme et la femme, on comprend. La liberté qui apparaît. Ils sont libres. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il y a une certaine liberté. Il y a un amour qui leur est communiqué. Second récit. On va le mettre rouge, celui-là. Donc, le deuxième récit. Qui est, selon un symbolisme, beaucoup plus grossier. Qui est très extraordinaire. Donc, 2, 4. Mais au jour où Yahvé, Dieu, donc toujours Yahvé, fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore sur la terre aucun buisson des champs, aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Vous voyez, on voit tout à fait la catéchèse renseignée. Mais il n'y avait rien de tout ça. Nier tout ça. C'est très heideggerien. Il faut d'abord nier tout ça pour qu'on comprenne qu'il y a une action créatrice à partir de rien. Car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. C'est très élémentaire. Il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de pluie, que voulez-vous. C'est bien. S'il n'y a pas de pluie, rien ne pousse. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait rien. Pas de pluie, pas d'homme. Donc, pas grand-chose. Mais un flot monté de la terre y a arrosé toute la surface du sol. Tiens, il y a un robinet. C'est extraordinaire. Il y en a une source qui jaillit. Il y avait Dieu façonna l'homme. Ah ! Extraordinaire. Tout de suite. Qu'est-ce qui est en premier lieu ? Il y a la négation. Hein ? C'est un récit très négatif. On balaye le terrain. Bulldozer qui envoie tout. Et on voit tout de suite le geste de Dieu. Le geste. C'est plus la parole, c'est le geste. Il façonna l'homme à partir de la matière, de la terre glaise, avec l'eau, l'argile. Il façonna à partir de là. Il façonna l'homme. Vous voyez, ce qui est très curieux, c'est que tout de suite l'homme apparaît. Tandis que là, 6e jour. Ah, oh, comme c'est curieux. C'est tout à fait inverse. Hein. Les deux récits sont de l'Esprit Saint. Ils sont contradictoires. Contradictoires. Ils ne sont pas contradictoires. Ils sont tout à fait autre chose. Il y a une mise en lumière. Vous voyez, son et lumière. C'est tout à fait différent. Là, je rétablis successivement, selon un ordre d'évolution. Le second récit détruit complètement le chemin de l'évolution. Complètement. C'est l'homme qui apparaît tout de suite. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'animaux avant. Il n'y a pas de vie avant. Il n'y a que de la terre et de l'eau. Mais il y a Yahvé. Il y a Yahvé. C'est suffisant. Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ah ! Le dualisme apparaît tout de suite. Alors que dans le premier récit, pas du tout. C'est l'unité. Le dualisme apparaît tout de suite. La poussière. Pas étonnant. Mais il y a de l'eau qui permet que la poussière soit moins nombreuse. Et il insuffla, donc, un geste de Dieu, le souffle de Dieu, insufflé, une haleine de vie. Donc, un principe de vie. On ne parle pas d'âme, un souffle de vie. Un principe de vie dans cette poussière qui fait qu'à partir de là, il est vivant. Donc, tout de suite, il y a les deux aspects. Vous voyez, la division première, selon le récit, c'est la lumière et les ténèbres. De l'autre côté, c'est la poussière et la vie. quand même très très curieux. Tout de suite, la division poussière, principe de vie. Première division. Et l'unité, c'est l'homme. Yahvé, Dieu, planta un jardin en Éden. Alors, c'est toute la sollicitude de Dieu pour l'homme. L'Éden, un petit jardin. Un jardin français. Extraordinaire. Dieu architecte, urbaniste. Parce que c'est plutôt l'urbaniste. Dieu urbaniste planta un jardin en Éden à l'Orient. Oh bien, c'était bien, c'est religieux, à l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait façonné, donc transplanté. Je ne sais pas sur quoi l'homme était avant, poussière. C'est un petit jardin. Il y avait Dieu fait pousser du sol toutes sortes d'arbres, des espèces différentes, désirables à voir. Oh là là, tout ce qui était beau, tout ce qui était désirable à voir, et bon à manger, la beauté et la bonté. L'homme a besoin de beauté, l'homme a besoin de manger, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est extraordinaire, hein, comme urbaniste. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, il fallait bien. Et de là, se diviser pour former quatre bras. Et c'est bien divisé. C'est un bon urbaniste, quatre bras à partir de la source. Le nom du premier, alors on donne les noms. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Parce que l'Euphrate, ça joue un rôle très important. Il y avait Dieu, prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Cultiver le jardin, regardez, tout de suite l'art apparaît. Vous voyez, dans le premier récit, dominez. Dans le second récit, soyez des artistes. C'est à la fois beaucoup plus primitif comme symbolisme, hein, c'est extraordinaire, comme c'est symbolisme, comme langage. Il y avait Dieu pris l'homme, bon, il l'installa. Il y avait Dieu donne cet ordre à l'homme. De tous les arbres du jardin, tu peux manger. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et le commandement est donné à l'homme. C'est une bonne excuse pour la femme. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. C'est très très joli. Hein. Le commandement est donné à l'homme, au gardien. Il y avait Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Une réflexion. Vous voyez, là, on ne voit pas encore la réflexion de Dieu. Parce que l'Éden est donné pour l'homme. C'est un jardin. Un jardin clos. Un jardin merveilleux auquel tout pousse. Il y en a le plus extraordinaire qui soit. Mais Dieu donne un précepte. Vous voyez, sagesse. Référence à la sagesse. Mais à la sagesse tout à fait différente du premier. C'est une sagesse d'un Dieu qui donne une loi. Un précepte positif et négatif. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Le contexte est totalement différent. Puis une réflexion de sagesse de Dieu qui va au-delà du législateur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un jugement de Dieu sur l'homme. Comme si Dieu n'avait pas pensé ça d'avance. Beaucoup plus archaïque. Et c'est l'expérience qu'il fait que l'homme s'ennuie. L'homme ne peut pas regarder quand même toute la journée des petits poissons rouges, des fruits, non, il s'ennuie. Il a besoin de parler à quelqu'un. Et il n'y a personne comme répondant. C'est extraordinaire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit sortie. Et il y avait Dieu façonna du sol toutes les bêtes du champ, toutes les insuffis, et à l'homme pour voir comment il les appelait. L'homme va appeler toute chose, va nommer toute chose. l'homme appela de leur nom tous les bestiaux, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs. Un petit dictionnaire qui est en train de se faire. Et pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Mais comme c'est curieux, de nouveau, deuxièmement, le second geste de Dieu, tout est commandé par ces deux gestes. Le geste du potier, et nous allons voir le geste du chirurgien. Et nous avons, à l'égard du second geste, la même chose, un aspect négatif. C'est curieux, la négation apparaît très fort. Une négation à l'égard des vivants. Aucun vivant capable de converser avec l'homme, d'être l'aide de l'homme, d'être celui qui pourra coopérer avec l'homme. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Première opération chirurgicale, une anesthésie généralisée. Il fait tomber une torpeur. Il ne faut pas demander conseil à l'homme. Il donnerait un mauvais conseil. On ne va pas lui demander conseil. Il fait tomber une torpeur sur l'homme. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Bon chirurgien. Mais la côte va servir de matière. L'homme a été formé à partir de la poussière, la femme à partir de la côte de l'homme. C'est déjà beaucoup plus évolué. Hein. L'homme est toujours très primitif. Poussière, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Tandis que pour la femme, c'est la côte. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yahvé, Dieu, bâtit en femme la côte. Il avait pris de l'homme. Alors, c'est extraordinaire. De la côte, ça va devenir la femme. Il l'amena à l'homme. Ah, Dieu est tout fier. Il a inventé la femme. C'est quand même quelque chose. Hein. Ça fait appel, si vous voulez, non plus à la sagesse, ça fait appel à quelque chose. Une inspiration extraordinaire. La sagesse, les préceptes pour l'homme, puis alors il va trouver quelque chose de particulier. Il va inventer. C'est vraiment une invention. Il fallait qu'il soit seul. L'homme plongé dans la torpeur. Et la joie de Dieu. Il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci, cette fois, comparativement à tous les autres animaux. C'est quand même intéressant, hein. Vous voyez que la femme n'est pas du tout pour l'évolution. Pas du tout. Il y a une grande négation entre deux. Celle-ci, cette fois, est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car c'est d'un homme qu'elle a été prise, celle-ci. Alors c'est le mot ish, pas en hébreu. Femme, c'est relatif à homme. Les deux mots sont les mêmes, pour montrer l'unité et en même temps la différence. Relative, elle est prise de l'homme. L'origine, c'est l'homme. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère. Alors on moralise tout de suite. On va expliquer le mariage. On va expliquer cette première souffrance, la femme et l'homme. Puisque c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et la femme quitte aussi son père et sa mère. Et ils deviennent une seule chair. Au point de départ, ils sont une seule chair et ils redeviennent une seule chair. Mais quel récit très primitif. Très grossier. Il y a un père de l'Église qui dit « Plus l'Esprit Saint se sert de symbolisme grossier, plus il cache un secret. » C'est très beau ça. Plus il cache un secret. Vous voyez que le second récit, j'allais dire, c'est pour montrer l'origine toute particulière de la femme. Tandis que le premier, en même temps, l'homme et la femme et les filles. Je vais être attentif à ça. Alors, ce second récit de la création, qu'est-ce qu'il nous montre? Je crois que le second récit est, il est commandé par la fine pointe du récit, et la fine pointe du récit, c'est la création de la femme. Dieu qui présente la femme à l'homme. Tout est commandé par ça. C'est comme chef-d'œuvre de Dieu, qui relève d'une inspiration. Une inspiration spéciale de Dieu, à travers le geste du chirurgien, qui est très bien fait. L'homme ne s'apercevra de rien. On lui a pris quelque chose, une côte, puis la bête dit en femme, lui présente. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce second récit? Vous voyez, j'ai essayé de le comprendre à sa source, sans aucun a priori, en voyant ces deux récits, l'un à côté de l'autre. Bon, l'un fait appel à la parole, la sagesse, l'ordre. Le second, l'ordre est en fonction de l'homme. Mais l'homme ne peut pas aboutir à un ordre parfait. Il n'y a pas de complémentarité. Et l'homme a besoin de la complémentarité. Alors c'est la femme qui va permettre de faire l'ordre parfait. Mais la femme, comme l'Éden, est créée par rapport à l'homme. Et le nom de la femme aussi, par rapport à l'homme. Comme l'Éden. Vous voyez ? Il y a deux complémentarités pour l'homme, l'Éden et la femme. Mais l'Éden ne permet pas la complémentarité parfaite. La complémentarité parfaite, elle implique un nouveau geste de Dieu. Quelque chose de tout à fait particulier. Alors, je crois qu'on peut dire que le second récit se réfère que Dieu est le Père. C'est pas pour rien. L'homme quittera son père et sa mère. C'est le Père. C'est-à-dire la bonté. Il montre la hâte de Dieu. La hâte du Créateur. Dès qu'il peut,